Mémoire du maraîchage dans l'Albigeois. Saint-Juéry, maraîchage et horticulture, deuxième épisode. Jean Vabre est donc fils de maraîcher, ou devrait-on dire ouvrier, puis maraîcher, en tout cas fils et petit-fils de jardinier et jardinière. Je le rencontre le lundi 24 février 2020, chez lui à Saint-Juéry.
Je reviens sur la vigne. Donc ça, c'était la grande fête où des vendanges, où tout le monde participe. Après, quel est ça, c'était vendu à une coopérative? Comment c'était?
Tout en particulier. Ouais. Les gens venaient avec une remorque, avec une brouette. Donc ils venaient chercher le vin avec une barrique, avec une bonbonne. Pour cacher la barrique et les bonbonnes, ils mettaient juste un sac de jute sur la bonbonne et ils repartaient en pied chez eux avec la bonbonne ou le... Voilà. Donc on le vendait comme ça. Alors ce qu'on a eu vendu aussi quand même, c'est dans l'Aveyron, parce qu'ils avaient moins de vin que chez nous. Donc on a eu vendu aussi du vin, mais par 200 litres, par des barriques ou des trucs comme ça. Donc là, c'était un particulier qui venait de l'Aveyron, parce qu'on avait de la famille là-haut, quoi. Et donc, il nous achetait, mettons, 200 litres de vin de là, voilà. Mais la plupart du vin était vendu aux particuliers du coin, voilà. Mais ça s'est arrêté dans les années 80, quand même, hein.
Parce qu'il y a une législation sur le vin qui a été un
peu... Oui, c'était compliqué. Puis mon père aussi ne pouvait pas tout faire, quoi. Voilà, ne pouvait pas tout faire. Puisqu'au début, les vignes étaient travaillées avec un cheval. Hein. Après, il a acheté un chenille et puis un 4 roues motrices. Hein. Mais enfin, bon, non, c'était pas possible. Il y avait trop de choses à faire. Le marché de gros, les foires, le marché de détail, en fait, c'était quand même... il s'arrêtait jamais, quoi. Hein. Il n'y avait pas de dimanche et de samedi. Puis il faut voir aussi que toute la famille, puisque même moi, quand j'ai commencé à travailler après, bon, je ne travaillais pas chez moi, mais ça ne m'empêchait pas que quand je rentrais du travail, vite je me changeais et je partais chez moi. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire, tellement que c'est vrai, donc mon épouse, elle était de la ville, et c'est vrai que... Elle comprenait mal cette façon de fonctionner, quoi. Puisque là, on ne s'arrêtait jamais, quoi. Hein. C'est-à-dire, du travail, hop, on se changeait, on repassait, voilà. Oui, puis je vous disais, donc au début, alors moi, je pensais que je prendrais la suite de mon père, parce que ce que j'avais calculé de faire, moi, c'est... alors, à l'époque, ça s'appelait des garden centers, c'est-à-dire des jardineries, quoi. Hein, voilà. Puisque chez ma grand-mère, ça allait bien, parce qu'on avait une route d'un côté, une route de l'autre, dont je m'étais fait toute ma petite histoire. Hein, voilà. Et puis finalement, avec mon père, ça a été compliqué, quoi. C'était compliqué, parce que lui, il n'avait pas trop envie, quoi. Il m'a dit, mais non, il vaut mieux que tu continues ta vie ailleurs, quoi, parce qu'il n'y a pas la vie pour deux. Enfin, bon, ça a été très compliqué, donc j'ai abandonné, mais ça n'empêche pas que j'ai continué de les aider pendant longtemps, quoi.
Ça, c'est ce qu'on m'a raconté aussi, c'est que beaucoup de gens disaient que le métier était dur et qu'ils ne voulaient pas trop que les enfants subissent ce que
oui,
eux avaient.
Bah voilà, oui, parce que c'est vrai qu'ils travaillaient sans arrêt, quoi. Ils travaillaient sans arrêt, c'était jamais fini. Parce que il fallait préparer les marchés, mais en même temps, donc il fallait semer, il fallait planter. Donc après, il y a eu l'époque des serres en plastique. Mais des serres en plastique, bon, on les fabrique nous-mêmes. Hein. Dans la première même serre en plastique, donc on l'a fait avec des chevrons, hein. Donc je me rappelle, donc, c'était une grande serre quand même, qui faisait 6 mètres de large et 50 mètres de long, toute faite maison, hein, où on faisait surtout là, des laitues pour le marché de gros, de grosses laitues. Et puis après, donc, est venu les serres avec les arceaux en galvanisé. Donc on en a eu pas mal. Aussi des serres basses. Petit à petit, donc, on a abandonné tous les châssis en verre qui pesaient. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ma mère, elle a travaillé, je veux dire, elle s'arrêtait jamais aussi, quoi. Parce que mon père, au début, quand il travaillait au sol du tard ou à la viscose, donc il n'avait pas tout son temps. Donc il faisait, lui, surtout, donc il préparait pour le marché et tout, mais ça n'empêchait pas qu'il fallait semer, planter, enfin tout. Et c'était ma mère qui faisait tout ça. Et quand on avait les châssis, c'est pour ça que j'y repense, les châssis quand même devaient peser au moins, parce qu'un châssis quand même qui faisait d'aller 70 ou je sais pas, de large, sur 1,50 m de long et tout en verre, ça devait peser, je sais pas, parce que moi je sais que je trouvais que ça pesait beaucoup, quoi. Ça pesait au moins 50 kilos, quoi. Et elle se les promenait toutes seules, quoi. Rien qu'à la force des bras, hein. Voilà.
Ça, est-ce que son travail était reconnu salarié, ou est-ce qu'elle n'était pas déclarée comme beaucoup de femmes?
Elle n'était pas déclarée.
Pas déclarée.
Non, elle n'était pas déclarée. Elle a travaillé toute sa vie comme ça, quoi. Non. Après, ce qu'elle aimait beaucoup, c'était le marché de détail, ouais. le marché couvert. Parce que là, je veux dire, autant que le travail c'était dur, que pour elle, le marché c'était presque une sorte de vacances, ou de voilà, ouais. Même à partir de, puisque mon père a été malade, hein, à partir de 60 ans, hein, mais une grave maladie, et ma mère a continué toute seule, parce qu'elle n'avait pas le permis de conduire, donc elle s'est acheté une petite voiture, et elle a continué le marché de détail d'Albi. Mais là, donc, elle avait pris une place à l'intérieur du marché couvert, alors qu'à l'époque, donc, on était dehors. Ouais. C'est-à-dire tout autour du marché, puis on avait là une plus grande place. Et là, donc, elle a pris une petite place, et elle a continué le marché 3 fois par semaine à Albi, avec sa petite voiture. C'était une petite voiture qui était sans permis, mais qui était quand même, c'était une fourgonnette, enfin une petite fourgonnette. Ouais. Et donc elle a continué le marché presque jusqu'à la fin. Elle ne pouvait pas se passer du marché. C'était comme une drogue.
Ça peut-être aussi casser un peu les habitudes en rencontrant du monde.
Elle avait des clientes, donc elle discutait. C'était son petit... Ouais, non, elle ne pouvait pas se passer du marché.
Marcelio, barra bim, barra bam, bam, bam.
À cette époque-là, il y avait déjà les trois marchés. Ou pourquoi le marché couvert plutôt que le marché de la Madeleine ou le marché de...
Alors ça, je ne vous dirai pas pourquoi, parce qu'en plus, c'était très compliqué, parce que le marché couvert de l'époque, les places se vendaient aux enchères. Donc je ne me rappelle pas, peut-être c'était chaque 5 ans, je ne m'en rappelle plus. Hein. Mais pour garder sa place, surtout qu'en plus, les jardiniers voulaient garder leur place parce qu'ils avaient leur habitude. Ils ne voulaient pas aller être de l'autre côté. Moi, mes parents, c'était en face chez Moulis. Je ne sais pas si vous... Enfin, c'était une épicerie fine à l'époque où ils vendaient de la morue salée, des sardines, enfin, tout ça. Voilà. Donc, on était là et on n'a jamais changé d'endroit. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était aux enchères. Donc, quand les places se vendaient, il fallait y être. Et puis que personne... Bon, mais je crois que mes parents n'ont jamais été embêtés parce que quand même... Les jardiniers, entre eux, ils se respectaient, quoi. Je veux dire, il n'y en a pas un qui voulait prendre la place de l'autre. Enfin, c'était pas quand même... Non, ils n'ont jamais été embêtés par quelqu'un qui voulait leur prendre la place, quoi.
Alors, monsieur Terral, le monsieur qui était jardinier, lui, à Lescure, il me disait qu'il y avait quand même quelques conflits, en tout cas, de côté Lescure-Arthès, sur les prix, s'entendre sur les prix. Est-ce que c'était source de conflits ou on y arrivait quand même?
Alors, moi, oui, c'est vrai qu'on en parlait un peu. Oui, parce que, mettons, c'est vrai que quand on faisait, mettons, je ne sais pas, moi, le prix des radis, tout, donc on faisait le tour pour voir si on était dans les clous, quoi. Hein, bon, parce que si vous les vendiez plus cher, mais vous n'aviez pas, hein, enfin, vous ne les vendiez pas. Oui, mais en fait, c'était quand même, c'était d'un commun accord, quoi. Je ne me rappelle pas qu'il y ait vraiment de conflit. Alors, c'est vrai qu'il y avait des jardiniers qui étaient connus pour vendre moins cher que les autres. Voilà. Donc, on ne les aimait pas. Voilà. Oui, c'est vrai.
Du coup, il y avait peut-être des rumeurs pour dire ben, s'ils vendent moins cher, c'est que c'est moins bon ou pas forcément.
On a toujours fait, nous, les prix que... Non, ben, plus ou moins des biens. Bon, je ne peux pas. Enfin, je ne me rappelle pas quand même qu'il y ait de gros conflits, quoi. Hein. Voilà, oui, non. Ça se passait bien, quoi.
Je reviens sur l'irrigation. On a parlé de plusieurs types d'irrigation, mais on n'est pas revenu sur un des plus anciens, dont Francine qui nous a mis en relation.
Sur les Pouzacs.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter et raconter un peu visuellement, puisqu'on est à la radio là, oui. Décrire un peu.
Alors, à côté de chez moi, enfin de nous. Où je suis né, quoi. C'est-à-dire, alors, moi, je suis au, nous, on est au 53, donc maintenant, ça doit être le 51, quoi. Hein. Donc, il y avait Madame Rodier, Rose, qui avait un jardin, enfin, il existe encore, hein, mais maintenant, c'est que du gazon, hein. Un jardin qui doit faire d'aller 2000 mètres, hein, voilà. Et il faisait du jardinage pour Saint-Jury aussi. Donc elle vendait aussi le jeudi place de la mairie et le samedi sous la HLM. Et donc elle se mettait à côté de nous. Il n'y avait pas beaucoup de vendeurs à Saint-Jury, mettons le samedi on devait être, alors je me rappelle que de Rose et de nous, et après peut-être il y avait quelqu'un d'autre, bon, mais peut-être on était trois, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, bon. Mais alors, ça, c'était avant qu'on fasse du jardin. Donc, ça a dû s'arrêter dans les années 60, quoi. Hein. Parce que moi, j'avais une voisine qui était... Enfin, elle est décédée, hein, mais... une voisine, Josiane, qui était à peu près de mon âge. Et à l'époque, il n'y avait pas de clôture entre les propriétés comme aujourd'hui. Donc, moi, c'est vrai que quand j'étais petit, j'allais souvent chez eux pour m'amuser... avec cette fille. Et je me rappelle que quand je traversais, quoi, que quand je, parce qu'il fallait que je traverse leur jardin pour arriver à leur ferme. Et je vois Rose qui arrosait à la Pouzac, c'est-à-dire que du puits, l'eau circulait par des rigoles. Elle arrivait dans des Pouzac, c'est-à-dire des espèces de petites retenues, hein, voilà. Et avec une pelle spéciale, donc elle arrosait tous les semis ou tous les légumes avec une pelle, mais il y avait quand même une façon particulière de jeter l'eau, parce que il fallait que l'eau avec la pelle ne soit pas jetée, il fallait pas qu'elle écrase les plantes, il fallait qu'elle soit dispersée. Et je me rappelle qu'avec le soleil, quand c'était le matin, le soleil qui passait entre les gouttes, ça faisait comme un arc-en-ciel, quoi. C'est-à-dire, quand elle jetait l'eau, c'était beau, quoi. Voilà. L'eau était vaporisée, mais je suis sûr que si moi je l'avais lancée, je ne l'aurais pas lancée comme ça, quoi. Bon, il fallait qu'avec cette pelle, voilà, qu'elle diffuse cette eau. C'était joli.
Pour un petit jardin, après peut-être pour un grand c'était plus...
Et oui, parce que quand même bon, pour les 2000 mètres, bon, ça pouvait aller, mais et puis après dans les années 60, donc, ils ont eu des rampes, enfin, ils ont été comme... Enfin, ils arrosaient avec une lance aussi, hein, puisque chez nous aussi, avant d'avoir les rampes, donc on a arrosé avec des lances, ce qu'on appelait. C'est la même chose qu'une lance de pompier, une grosse lance, mais qui arrosait très loin, et on arrosait donc avec ça. Donc ça, c'est le premier. Donc il y a eu les lances. Après, il y a eu les tourniquets, hein. C'est-à-dire, c'était un engin qui tournait avec la force de l'eau et avec deux bras, quoi. Et à chaque bout de bras, il y avait des diffuseurs, quoi. Mais à chaque fois, il fallait changer cet arroseur et puis le mettre ailleurs. Et puis petit à petit, donc on arrivait sur les je sais pas comment ça s'appelle, là, ceux qui font...
Oui,
par intermittence. Enfin, ça, c'est un nom, bon, je m'en rappelle plus. Hein. Et après, donc, il y a eu l'époque des rampes, hein. Alors nous, je crois que c'était une rampe Azam, hein. Moi, j'en avais acheté une ici parce que, en plus, comme j'étais dans le jardinage, quand j'ai construit ici, donc c'est mon père qui m'a donné ce terrain-là. Alors moi, j'ai commencé à faire du plan, j'ai fait des fraises, parce que comme j'étais dans ce système-là, je pouvais pas, enfin, il fallait que je fasse du jardinage aussi, quoi. Donc je travaillais, mais je continuais aussi après le travail. Donc, j'aidais mes parents, mais en plus, moi, je garnissais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gazon, il n'y avait rien. C'est-à-dire, ça arrivait, mon jardin, il partait de là, puis il allait jusqu'au fond. Bon, le terrain fait 100 mètres, hein, voilà. Et là, j'ai fait plusieurs... j'ai fait beaucoup de fraises, et je profitais de ma mère qui allait au marché, puisque c'était elle qui me vendait tout. Et ça me faisait aussi un peu d'argent, quoi. Voilà. Donc j'ai fait du plan, j'ai fait des fraises, voilà.
Merci à Jean Vabre ainsi qu'à son épouse pour l'accueil lors de cette première rencontre du 24 février 2020 chez eux à Saint-Juéry. C'était le deuxième épisode de cette discussion. Merci pour la musique à Meum et à la Talbert. Ce petit portrait sonore a été fait dans le cadre du projet Mémoire de maraîchage de l'association Albiville Comestible. Merci à toute l'équipe de cette association, à retrouver sur internet albivillecomestible.fr ou par mail contact@albivillecomestible.fr. Merci enfin au conseil et au soutien de l'association La Talbert, à retrouver sur internet talvera.org. Enfin, merci à la Fondation de France. À suivre.